voix nue. Cette semaine, Zoé Sfèze rencontre Alain Touraine. Ce soir, de l'acteur au sujet, la conscience de soi.
Bonsoir Alain Touraine.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir Alain, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode d'Avoix Nues déjà.
Oui.
Alors nous avons parlé au cours de ces quatre épisodes de votre entrée dans la sociologie, des outils que vous avez développés pour analyser cette société du travail, cette société industrielle. Puis nous avons évoqué cette période de doute qui a été assez longue chez vous, qui a duré jusqu'aux années 90. Et finalement, aujourd'hui, dans cette phase de votre vie, vous avez 93 ans, vous travaillez beaucoup avec une forme d'urgence, vous avez publié un livre qui s'appelle « Défense de la modernité », vous prévoyez d'en publier un nouveau, probablement l'année prochaine. Quels sont les enjeux qui aujourd'hui vous animent ? La modernité, on l'a dit, est au cœur de votre propos.
Vous avez tout à fait raison de dire ça, de reprendre ce mot qui n'a pas bonne presse.
La modernité.
La modernité. Et moi, j'y suis attaché peut-être parce que la modernité, ça veut dire la reconstruction après la guerre. Quand j'étais gamin, je vivais dans Paris occupé, l'économie française par terre, des gens déportés ou envoyés à travailler obligatoirement en Allemagne. C'était pas très marrant quand même. Donc la modernité, pour moi, c'était quelque chose d'assez magnifique. Aujourd'hui, les gens se méfient de la modernité, mais moi, je veux défendre la modernité parce que je ne vois pas comment on peut améliorer la situation des gens, de tous les gens, si on ne fait pas deux choses. La première chose, c'est faire monter la productivité, produire de plus en plus avec de moins en moins de temps et d'efforts. Et deuxièmement, il faut le dire franchement, diminuer les écarts sociaux. Or, vous savez bien que oui, il y a de grands progrès de productivité, toutes ces histoires de nouvelles technologies, mais il y a aussi dans le monde une tendance très forte à augmenter les inégalités. Regardez la Chine, la Russie, c'est des pays qui étaient pauvres, et puis il y a des milliardaires. Dans la France, il n'y a pas eu tellement d'augmentation. En fait, je dirais même honnêtement qu'il n'y a pas eu d'augmentation au niveau des revenus. Mais attention, vous le savez exactement aussi bien que moi, il y a quand même un facteur d'inégalité énorme qui s'appelle le logement. Aujourd'hui, moi, un type comme moi, un professeur d'université, il ne peut pas habiter dans Paris. Moi, j'y suis là parce que j'ai acheté mon appartement avec un taux d'intérêt relativement bas sur 25 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Autrement dit, l'inégalité, oui, elle augmente. Oui, elle augmente. Donc, il faut se poser des problèmes. Comment est-ce qu'on peut arriver à se moderniser pour être compétitif ? Sans ça, c'est les Chinois, c'est les Indiens qui vont prendre les marchés. Faut vivre quand même. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes en France, c'est quand même capital, dans un pays qui a 10% de chômeurs depuis très longtemps. Dans un pays qui est en déficit du budget national depuis très longtemps.
Comment est-ce qu'on fait justement ? La notion du travail reste capitale pour vous ? Parce que là, vous êtes en train de dire qu'il faut produire plus, il faut que les niveaux de revenus augmentent. Mais on a aussi l'impression qu'on est dans un monde où les ressources sont limitées et que les révolutions, les bouleversements technologiques induisent nécessairement peut-être moins de travail. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je répondrai à ça que si vous ne produisez pas d'une manière qui est compétitive, les productions partent ailleurs et vous serez au chômage. Il faut avoir des moyens de production et de productivité qui sont élevés, pas en faisant « c'est le burnous », hein. Pas en écrasant les gens avec des bas salaires. Ça c'est catastrophique. D'abord, c'est catastrophique parce qu'on produit pour les gens, pour nous. Donc, il faut faire ça. Mais il faut qu'il y ait de l'intelligence de ne pas, par exemple, laisser les riches foutre leur argent ailleurs pour pas payer d'impôts. Pas normal, ça. Pas normal, ça. Il faut aussi que notre formation soit efficace, que nos écoles soient intelligentes. c'est-à-dire écoute les besoins, les demandes, les rêves, les imaginations des jeunes. Bon, on s'en tire, je dirais qu'on s'en est tiré de manière pas très courageuse. On a laissé certaines catégories perdre du niveau de vie, c'était essentiellement pendant l'essentiel du temps les fonctionnaires, mais aussi des secteurs du territoire, des régions qui se sont désertifiées. Il y a des régions désertifiées en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, partout. Bon, donc il faut éviter les inégalités absolument. Et lorsque quelqu'un comme moi, voyez-vous, j'appartiens à une institution qui est de haute qualité, mais relativement jeune. Ça a été créé au moment de la guerre, après la guerre, etc.
Le HESS, l'École des hautes études économiques et sociales.
Bon, eh bien, je vais vous dire une chose que vous ne savez certainement pas. Mais ces institutions scientifiques de haut niveau, y compris, surtout dans les sciences de la nature, évidemment, au CNRS, etc., ben, tous ces gens-là, beaucoup, pas tous, beaucoup de ces gens-là ont passé leur vie, ça a été mon cas, avec des salaires beaucoup plus bas que dans l'université, alors que nous étions, excusez-moi de dire ça, nous étions le top. Hein? Il y avait des Allemands, des Anglais, et nous, et puis les Américains, au niveau mondial, ça allait bien. Hein? On a fait des choses pas mal.
Dans un de vos derniers chapitres sur les acteurs de cette hypermodernité, vous évoquez aussi les grandes entreprises américaines, les GAFA, Google, Amazon. Vous évoquez leur fascination et vous mettez en espèce de contrepoint, en espèce de contre-pied, la fascination qu'on devrait avoir et l'investissement qu'on devrait mettre dans des grandes institutions de recherche. Vous avez l'impression que ça n'est pas le cas.
Ça a été le cas à une époque. Et puis l'État étant en déficit, a essayé de couper. Je prends un exemple, parce que moi je ne suis pas un scientifique au sens classique du terme qui s'occupe de chimie, de physique ou de mathématiques. Alors les trucs qui coûtent pas cher, comme les mathématiques, la France reste magnifique. C'est un grand pays mathématique, la France. Mais il faut pas raconter l'histoire.
Alain Touraine, je parle au sociologue que vous êtes. Vous avez consacré toute une première partie de votre vie à analyser les mouvements sociaux. Vous l'avez dit, c'est
toute
une complexité,
vie.
Toute votre vie.
Je dirais toute ma vie, si vous voulez. Moi, pour moi, c'est très simple. Hein. Il y a deux manières de penser les problèmes sociaux. Il y a les gens qui disent « ce sont les systèmes qui fonctionnent tout seuls, c'est comme ça ». Il faut se battre éventuellement pour les changer, mais c'est comme ça.
Et vous parlez de Pierre Bourdieu, par exemple.
Et puis, il y a les gens qui disent « on peut agir et il faut avoir des objectifs qui sont, je dirais pas le bonheur, parce que ça, c'était plutôt pour les sociétés immobiles ». Mais il faut avoir de la créativité, de l'autonomie, pas de bureaucratie, pas de non plus d'inégalité scandaleuse parce que ça vous décourage, etc., etc. Et ça, c'est plutôt ma manière de penser.
Mais je reviens là-dessus parce qu'Alain Touraine, vous le dites, il y a comme une absence de mouvements sociaux. Vous, vous êtes passé d'une théorie des mouvements sociaux à aussi une théorie de l'acteur social.
Est-ce
qu'on a des mouvements sociaux aujourd'hui ?
Je vous entende. C'est pas évident ce que vous dites là. Parce que les mouvements sociaux, il y a les bons, mais il y a aussi les mauvais. Nous appelons ça et nous avons énormément travaillé là-dessus. En particulier, mon numéro 2, si vous voulez, de toute ma vie, qui s'appelle Michel Viorca, nous avons fait beaucoup d'études sur les anti-mouvements sociaux, sur la violence, sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur des tas de trucs moches, négatifs, et là. Il n'y a pas que des trucs positifs dans la société. Il y a des trucs extrêmement négatifs et on a assassiné et on continue à assassiner des tas de gens et à les mettre en prison toute leur vie. Et les camps de concentration, c'est en Europe. L'Allemagne, c'était le pays le plus avancé dans la civilisation de l'Europe continentale et même de l'Europe tout court à la fin du 19e siècle. Ben, vous voyez à quoi on en est arrivé, c'est effrayant. Bon, donc attention. Il y a des enjeux, il y a des mouvements sociaux, il y a des anti-mouvements sociaux, il y a des salauds, il y a des traîtres, il y a des tas de choses. La société, c'est pas une société pour vieilles dames qui tricotent.
Mais alors justement, les mouvements sociaux aujourd'hui, dans la société telle qu'elle existe, il y a eu des tentatives. On a l'impression qu'à chaque fois que c'est embryonnaire, qu'on est effectivement hors des cadres politique traditionnelle. On a une nuit debout, là on a les gilets jaunes par exemple en ce moment. Comment est-ce que vous lisez ces mouvements sociaux là? Est-ce que vous les considérez comme des mouvements sociaux ou est-ce que vous considérez qu'il faudrait qu'on en ait d'autres qui se constituent à partir d'acteurs sociaux?
Écoutez, je ne peux pas, excusez-moi, mais je ne peux pas porter un jugement public sur des mouvements qui se passent en ce moment, qui commencent, je ne peux pas aller plus vite que le train.
Vous avez bien raison, et vous êtes sociologue, et c'est une réponse de sociologue.
Il faut être prudent. Mais je tiens à dire très fortement que nous sommes dans des situations où le pire comme le meilleur peuvent se produire. J'ai mis au début de mon dernier livre une citation, non pas d'un sociologue, mais d'un économiste, qui est l'économiste peut-être le plus connu aujourd'hui, qui s'appelle Stiglitz, qui est le prix Nobel américain, et qui dit, moi, vous savez, les lois de l'économie, c'est, ça fait plaisir aux sociologues, les lois de l'économie, je les rencontre pas souvent, j'y crois pas tellement. Ce que, à quoi je crois, c'est à la politique, dit-il. Autrement dit, il y a des enjeux difficiles, il faut avoir le courage de les faire. Nous n'avons pas du tout eu toujours le courage. Souvent, on a bouffé l'argent quand il y en avait, mais heureusement, nous avons été prévoyants. On a fait la Sécu, ce qui quand même est un truc formidable. Il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup de gens dans la misère et dans la pauvreté. Mais il y en a quand même beaucoup moins qu'avant, qu'avant la guerre.
À vous entendre, Alain Touraine, sociologue, on a l'impression que vous auriez pu finalement faire de la politique. J'ai l'impression, on y revient, vous parliez de la sécurité sociale,
mais il faut
que
tout.
Ce n'est pas un hasard que votre fille en ait fait. Alors que vous vous êtes finalement relativement peu engagé, on l'a dit, vous avez été très proche de Michel Rocard. Finalement, vous avez cette fille qui est devenue ministre, Marisol.
On ne peut pas tout faire dans la vie. Il faut des gens qui produisent de la connaissance. Il faut des gens qui gèrent l'action. Il faut des gens qui aident les gens qui sont dans les situations les plus difficiles. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a rien de mal dans tout ça. Tout ça est très bon et très utile. Et il y a des syndicats qui gueulent. Et il y a des patrons qui créent des entreprises. Tout ça, c'est très bien. Il ne faut pas raconter d'histoire. On ne peut pas faire uniquement de l'économie, uniquement du social. Il faut faire les deux. C'est ça que, d'ailleurs, j'avais trouvé chez Mendès-France, chez Rocard, chez Delors.
Les hommes dont vous avez été proche.
Tout à fait fondamental. Mais la question est comment? Et les réponses ne sont pas simples. Parce que ce à quoi nous tenons en France, c'est qu'on essaye de faire le plus possible appel à cette idée qui peut vous sembler naïve, mais que si les gens sont respectés, s'ils travaillent dans de bonnes conditions et s'ils ont de la sécurité, ils travaillent mieux et ça va mieux pour tout le monde. Voilà, c'est là-dessus qu'on vit en Europe depuis 50 ans, depuis qu'on s'est libéré du nazisme. Bon, c'est quand même assez noble comme objectif.
Alain Touraine, vous parlez des acteurs sociaux et vous dites dans votre dernière partie de ce livre, Défense de la modernité, et vous allez leur consacrer un ouvrage, vous dites qu'il y a des acteurs sociaux qui vous intéressent plus et qui sont pour vous ceux qui ont le plus à apporter à cette société de demain. Qui sont-ils? Je crois que vous parlez essentiellement des femmes.
Attendez, je vais vous donner les deux réponses qui sont les miennes. Dans les deux sens, il faut que chez nous, les femmes qui ont été laissées dans le traitement de la nature, la reproduction, les soins aux enfants, les soins aux vieillards, en plus du travail. Les femmes ont deux travaux, tout le monde sait ça. Et donc elles ont une grande difficulté à avoir des carrières professionnelles et donc des revenus qui soient égaux à ceux des hommes. Il y a de l'infériorité chez les femmes qu'elles subissent. Bon, il est normal qu'elles se battent contre ça et j'ai fait toute ma vie, tout ce que j'ai pu, pour être du côté des femmes. Bon, l'aspect positif que nous voyons, et ça va s'accentuer, et moi je pense consacrer mon prochain livre, qui sera vraisemblablement le dernier à ça, la montée des femmes. C'est tout à fait capital. On a un besoin intense de mouvements de femmes assez agressifs, non pas pour l'égalité, j'aime pas beaucoup ça, mais pour la créativité des femmes En ce moment, il y a un pays qui montre le chemin. Les Français ne s'en rendent pas tellement compte. C'est les États-Unis.
Avec les élections des midterms qui ont
avec
vu apparaître
les élections
des profils
mid-term,
tout à
vous avez
fait incroyables.
Eu énormément de femmes, surtout des femmes de minorités ethniques et évidemment de ce qu'on appelait quand j'étais jeune des Noirs, mais ou qu'on a appelé ensuite des Afro-Américains ou Afro-Américaines. Je m'engage intellectuellement là-dessus. Je pense que dans le siècle où nous sommes, pour simplifier les choses, notre société doit être aujourd'hui, je ne dirais pas avoir des chefs femmes, je m'en fous, mais il faut qu'elles soient guidées dans ces changements par des femmes.
Vous, Alain Touraine, vous avez travaillé sur les femmes en tant que sociologue. Là, vous dites que vous allez écrire
oui,
ce
mais
livre,
je...
mais vous l'avez fait sur le terrain. Comment est-ce que, concrètement, méthodologiquement, comment est-ce que vous avez travaillé sur cette place des femmes dans la société ?
Oh ben, ça, c'est pas très compliqué. J'avais développé une méthode qui s'appelle l'intervention sociologique, c'est-à-dire, non pas où on observe, mais où le chercheur essaye de se placer du point de vue du mouvement social en train de se faire, non pas de la vie vécue, mais de ce que les gens font, de l'initiative, de la bagarre, du conflit, de la négociation, etc. Enfin, ce qui s'est passé, évidemment, notre modèle, auquel je donne peut-être trop d'importance, mais enfin, notre modèle, ça a quand même été le mouvement ouvrier, dans nos pays à nous. Mais enfin, maintenant, je dis que le grand mouvement social dans les pays, appelons ça occidentaux, si vous voulez, c'est, et ça va être, ce n'est pas maintenant, mais ça va redevenir, et ça va être beaucoup plus qu'avant, le mouvement des femmes. Deuxièmement, nous vivons aujourd'hui, c'est une des grandes transformations, c'est peut-être la transformation la plus importante, nous vivons au niveau mondial. Ça vous plaît pas, on s'en fout, c'est comme ça. Il faut pas que vous disiez, tout se passe entre Paris et Versailles. Non. Ou entre Londres et Cambridge et Oxford. Non. Il faut que nous ayons un monde pour tous les êtres humains. Et je regrette infiniment que les Occidentaux, comme les Français, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, tout ce que vous voulez, que tous ces gens-là n'aient pas réfléchi suffisamment sur ce qu'a été la colonisation. La France, comme vous le savez, s'est très mal décolonisée dans la douleur, dans l'injustice, dans ce qu'a été la guerre du Vietnam, dans ce qu'a été la guerre d'Algérie.
Ce sont deux éléments qui vous ont marqué et qui ont entretenu aussi chez vous cette forme de désamour pour la France.
C'est tout à fait vrai. Je dirais, c'est pas vrai de dire que la France est le pays de la justice, de la liberté. Elle l'est. Elle l'a été. Et elle l'est aussi. Mais quand même, on n'a rien compris. Il y a des gens qui ont compris. Mais ils n'étaient pas tellement nombreux. Et Mendès France a quand même donné la liberté, l'indépendance au Maroc et à la Tunisie. C'est des gens bien, ça. Bon. J'ai appelé un de mes livres « Pourrons-nous vivre ensemble ?» Eh ben voilà. Ma vie a été ponctuée par des rapports avec les femmes. Si c'était des rapports avec des hommes, j'aurais exactement les mêmes attitudes. Et je dis que la France est magnifiquement comportée avec Madame Taubira, pour respecter, donner un statut légal aux homosexuels, hommes ou femmes. Plus actif du côté homme, d'ailleurs. Il y a une sorte de vieille infériorité des femmes qui se retrouvent du côté des homosexuels. Mais enfin, tout ça quand même s'améliore. On se bat encore en ce moment, d'ailleurs, sur ces choses-là. Et on n'a pas fini. Mais il faut se battre. Les choses ne se font pas toutes seules.
Alain Touraine, vous qui êtes sociologue et qui avez travaillé sur les mouvements sociaux, est-ce qu'un concept comme l'intersectionnalité vous intéresse ? L'idée de dire que quand on est femme, et qu'on est une femme, et qu'on est noire, et qu'on est une femme noire, on a des problématiques, disons,
écoutez,
qui peuvent se recroiser.
Écoutez,
même si ça relève d'une sociologie de la structure que vous n'aimez pas particulièrement.
Non, écoutez, il y a quand même des choses qui sont combattues, je ne sais pas vraiment pourquoi. Parce que c'est quand même l'évidence. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de genre plutôt que de sexe. Mais enfin, c'est la banalité. Simone de Beauvoir, il y a très longtemps, a dit « on ne naît pas femme, on le devient ». C'est d'une intelligence extraordinairement fine, profonde, Mais c'est vrai pour tout. Et c'est pas toujours vrai parce que font les hommes qui imposeraient unilatéralement leur pouvoir. C'est aussi les femmes qui se libèrent ou, ce que je dis moi, c'est que nous sommes en train de passer, nous devons passer des femmes qui se libèrent aux femmes libératrices. Mais il faut que ce soit des femmes qui, ayant souffert la domination masculine, et Monsieur Weinstein nous rappelle que c'est pas terminé. Bon, je vous parle pas d'un passé lointain qui s'estompe, etc. Non, nous sommes encore dans ces luttes, c'est pourquoi il faut parler de ces choses avec un peu de colère. Il faut avoir la tête froide, il faut réfléchir, ça, c'est mon boulot à moi. Hein. Mais il faut aussi qu'il y ait de la colère, des vagues, que la mer bouge un peu.
Et vous analysez, et en même temps, vous encouragez à la colère, une colère saine, parce que toujours dans ce livre, et ça c'est dans la première partie, dans les étapes de la modernité, vous essayez de décrire une forme de colère ou de peur qui existe dans ce monde qui se modernise. Vous l'avez dit, il ne faut pas craindre la modernité, il faut être de plein pied dedans. Or, aujourd'hui, il y a des vraies tentations réactionnaires parce qu'on a peur, et on le sent tous dans notre intimité, de la modernisation qui ébranle. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Et comment est-ce que vous comprenez ceux qui ont peur, non pas de la modernité, mais de la modernisation, qui bouleverse même les vies intimes?
Écoutez, pour être tout à fait honnête, je vais vous dire que d'abord, j'ai peur des gens qui ont peur. Parce que, dans notre histoire à nous, ça a eu un nom. Ça s'appelait le fascisme. Et quand on était plus fort, ça s'est appelé le militarisme japonais, et qui ont mis à sac toute l'Asie, la Corée, l'ex-Formose, la Chine, etc. Donc, nous avons en Afrique des situations exactement du même type. Donc, il faut faire aller ensemble le progrès de la productivité, c'est-à-dire la science, la technique. Il faut du progrès matériel. Et il faut en même temps de la lutte constante contre l'inégalité, que dans la période actuelle il y ait une croissance de l'inégalité, c'est un scandale mondial. Ça devrait être absolument le contraire. Et c'est ce qui va quand même se passer. Nous sommes sans arrêt sur la crête entre on peut faire appel à des connaissances de plus en plus nobles, et donc à de la liberté, il y a du respect entre les gens de plus en plus profond et réel. Mais nous pouvons tout perdre. Nous pouvons sombrer dans la violence. Et je dirais, chacun d'entre nous, dans ce qu'il fait, aujourd'hui, hier, demain, peut tomber du bon ou du mauvais côté. Si nous devions avoir un programme, moi je trouve que liberté, égalité, fraternité, c'est magnifique. On n'a jamais dit mieux. Faisons-le.
Au cours de notre premier entretien, Alain Touraine, vous expliquiez que vous vous ennuyiez au lycée. Vous m'avez dit à plusieurs reprises que finalement vous étiez un peu un rebelle. Oh. Vous aviez agi souvent dans votre vie, peut-être pas par rébellion, mais par envie de faire un peu autrement.
Oui, mais ça c'est une question d'enfance que je ne peux pas expliquer parce que je n'ai pas la compétence. Mais mes parents étaient absolument sensibles à ça, et on me disait que j'étais ronchon, que je protestais tout le temps. Je me rappelle, je sais pas pourquoi, une fois c'est resté gravé dans mon esprit, mon père voulait faire des photos de la famille, et dans l'appartement devant il y avait un petit balcon, et alors on prend toutes les photos, et puis c'était une époque, je vous parle de 1930 ou quelque chose comme ça, et quand mon père développe ou va chercher dans la boutique du photographe les photos, qu'est-ce qu'on voit? Il y avait toute la famille, puis moi en train de faire des grimaces et des trucs comme ça. Et donc j'ai foutu en l'air, et il m'a engueulé, mais terrible. Et voilà, j'ai toujours été un peu protestataire.
Alain Touraine, ce petit côté protestataire, à 93 ans, est-ce que vous l'avez toujours?
Oui, j'ai mauvais caractère.
Voilà. Est-ce que c'est vraiment avoir mauvais caractère?
Pas seulement, j'espère. Parce que je pense que ne pas être d'accord, c'est une bonne réaction. Si c'est pour dire « oui papa, oui Mao », non. C'est pas mon tempérament. Mais je peux ne pas me condamner, parce que je crois que les Français ont assez justement la réputation d'être des gens qui ont un mauvais caractère.
Et c'est fertile, finalement.
Autrefois, d'ailleurs, ils avaient plutôt la réputation d'être des gens agréables, amusants, qui aimaient bien boire, bien s'amuser, ça. Mais les étrangers, et en particulier les latino-américains, ne s'y trompent pas, les Français sont des gens pas agréables. Pas agréables et qui sont pas gentils, qui sont pas communicants.
Et vous, vous êtes communicant, Alain Tourelle.
Ah non. J'aimerais l'être, parce que c'est ça le monde d'aujourd'hui. Mais moi, je ne sais pas communiquer avec les gens. Je ne suis pas sociable.
C'est un paradoxe pour un sociologue.
Eh non, qu'est-ce que vous voulez, ça n'a rien à foutre. C'est comme si vous voulez un chirurgien maladroit, ça existe aussi. Et il y a des grands chirurgiens qui ont été des gens très maladroits. Moi, je suis plutôt un théoricien de la communication qu'un praticien de la communication.
Plutôt un théoricien qu'un praticien.
Oui, oui, mais... Je crois quand même qu'il y a des gens qui comprennent que le type n'est pas un mauvais type.
Vous ?
Oui, c'est pas un mauvais type.
Merci beaucoup Alain Tourenne pour ces 5 épisodes d'Avoix Nues passés ensemble.
N'exagérez pas, c'est à moi à vous remercier quand même. Parce que je vous ai dit que moi je crois à la conscience de soi. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Vous me dites, ayez conscience de vous. Qui êtes-vous ? Réfléchissez, ayez conscience. C'est ça, la création, c'est ça. La création, c'est remplacer l'expérience vécue par une pièce de théâtre, par un poème, par la science, par l'amour, par tout ce que vous voulez. Enfin, j'essaye d'être du côté des gens qui ne sont pas au premier degré. Je suis par profession et par caractère, une personne au deuxième degré.
Merci Alain Tourenne et j'espère que ces épisodes auront donné envie à nos auditeurs d'avoir conscience d'eux-mêmes. Merci et à bientôt.
Merci à l'heure, encore plus.
Fin de cette rencontre de Zoé Sfèze avec Alain Tourenne. Voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son François Rivalan, Romain Luquiens, coordination Claire Poinsignon. À Voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.